bonjour à tout le monde. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Josué chapitre 6. On va lire le chapitre en entier. On va parler de cette bataille de Jéricho. Je pense que tout le monde connaît. Josué chapitre 6, et on va lire les 27 versets que comporte ce chapitre. Josué chapitre 6, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. » Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, » et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre vos voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp et firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. On laissera la vie à Rahab, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. » Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de la famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. On rappelle les histoires d'école du dimanche. Hein. Josué et cette attaque de Jéricho et cette victoire, j'ai marqué par la foi. Hein. On est à peu près après 40 ans dans le désert, à tourner en rond. Hein. Enfin, ils vont conquérir ce pays promis qui est Canaan. Il y aura plusieurs campagnes militaires, on ne va pas les voir toutes aujourd'hui, mais il y aura deux grandes offensives, en particulier Jéricho et Haï. C'est un petit peu plus tard, on va s'intéresser à Jéricho aujourd'hui. Juste avant, Josué avait envoyé deux espions à Jéricho, vous voyez ça au chapitre 2 de Josué, et Rahab va les protéger, va les garder chez elle, et puis ils vont pouvoir repartir dans leur camp. Et quelque part, la Jéricho dont on parle là, c'est un peu une Jéricho qu'on peut avoir nous-mêmes dans nos vies. Vous n'avez jamais de problème. Il n'y a que moi qui ai souvent des problèmes, des épreuves, non? C'est un peu une Jéricho qu'il faut conquérir aussi. Et on va un peu tirer des conseils, voir un peu comment... D'abord, Josué a attaqué cette ville à partir des ordres que l'Éternel lui a donnés. Et de là, on peut tirer des conseils peut-être pour nous dans notre vie, parce que nous avons aussi nos Jéricho. Donc Jéricho, la ville, c'était une ville qui était fortifiée. À ce qui paraît, il y avait 34 murs d'enceinte. C'était une ville basse qui était à 240 mètres au-dessus du niveau de mer. On l'appelait aussi la ville des palmiers. On voit sa première mention dans la Bible en Nombre 22. Jéricho était réputée pour ses belles roses. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les historiens parlent de là, de ces très belles roses. Donc ça, c'est pour les hommes. Si on veut donner une rose à notre épouse, il faudra aller à Jéricho. Elle n'existe plus. Aujourd'hui, la ville est située à Tel-Ul-Es-Sultan et Tel-Jéricho. Donc on peut encore voir l'endroit où avait existé cette ville. C'est à peu près, en Palestine, à peu près au niveau de la mer Morte, au-dessus de la mer Morte. On peut s'intéresser à l'attitude des habitants de cette ville de Jéricho, parce que là, on voit plutôt le côté de Josué, mais dans Josué 2, versets 8 à 11, on peut le lire, si vous voulez, Josué 2, 8 à 11. Si quelqu'un veut nous le lire, tiens.
Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: « Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisi, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. » Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre.
Merci. Donc voilà l'attitude des habitants de Jéricho et de la région. Ils avaient peur, ils connaissaient cet Israël qui venait là et qui avait une réputation et qui avait un Dieu qui faisait des choses assez miraculeuses. Donc Jéricho était dans la crainte, était dans la terreur en fait. Ils savaient ce que Dieu avait fait déjà pour Israël et donc forcément ça fait réfléchir. Et Rahab, qui va accueillir les espions, elle avait compris quelque chose, que l'Éternel était Dieu, certainement. Elle a cru en Dieu, en fait. Et c'est pour ça qu'elle va protéger les espions et ensuite les faire partir. Elle a cru en Dieu. Et ça, c'est intéressant. Quelqu'un écrivait par rapport à Alexandre le Grand, qui voulait un jour récompenser un philosophe qui lui avait rendu un grand service. Et il dit « Tu peux me demander ce que tu veux, dit Alexandre le Grand. » Le philosophe a pris cette offre au sérieux et dit au trésorier royal qu'il voulait 10 000 livres d'or, une somme importante. Choqué par une demande aussi importante, le trésorier refusa. Et il est allé ensuite en colère voir Alexandre le Grand. Cet homme demande trop, sa requête n'est pas raisonnable. Alexandre a écouté patiemment et ensuite lui a dit de donner au philosophe en fait ce qu'il avait demandé. Et il dit, il m'a honoré de trois façons. Premièrement, il a cru à ma parole. Il a cru. Deuxièmement, il a cru à ma richesse. Troisièmement, il a cru à ma bonne volonté pour faire ce que j'ai dit et que je ferai. Donc donne-lui l'argent. Il m'a en fait honoré par sa grande foi dans mes paroles. Et de la même manière, Rahab, quelque part, a cru en l'Éternel, a cru que Dieu était en train de, on va dire, envahir ce pays promis et qu'elle risquait certainement au gros. Donc c'est la seule qui a cru parce que les autres étaient dans la crainte. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la crainte de Dieu, savent que Dieu existe, ont peut-être un peu peur, mais ils ne croient pas Dieu dans le sens où ils vont l'accepter dans leur vie, se repentir, croire qu'on est pécheur et demander pardon pour cela, accepter que Jésus est mort à ma place pour moi. Mais elle a cru et ça sera un salut. On verra ça tout à l'heure. Et donc, il faut imaginer quand même ces habitants de Jéricho pendant 7 jours. Alors, le peuple qui passait tous les jours une fois, et eux, ils étaient là-dedans, dans la ville, et ils ne faisaient rien. Ils étaient dans la terreur. Face au jugement de Dieu. Et c'est curieux quand même qu'ils aient rien fait pendant 7 jours. Je sais pas, moi j'aurais été dans Jéricho, j'aurais planifié un tas de choses, j'aurais balancé des choses par la muraille, enfin, voilà, il y a une stratégie militaire. Ils n'ont rien fait. Ils étaient certainement tétanisés. Quand on connaît un peu aussi la morale de Jéricho, et c'est pourquoi Dieu va aussi attaquer cette ville, hein, c'était une ville de débauche, d'idolâtrie, hein, quand on fait des fouilles archéologiques. Il y avait une prostitution sacrée énorme, et puis on sacrifiait les enfants de bas âge, aux dieux, je ne sais pas quoi. Donc il y avait quand même une morale très très mauvaise. Et Dieu va leur infliger son jugement, et ce n'est pas à moi de dire à Dieu pourquoi tu as détruit Jéricho, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui peut dire qui il a le droit de juger. Et surtout, c'est que peut-être pendant 7 jours, Jéricho aurait pu dire à un moment, drapeau blanc, nous croyons aussi que votre Dieu est le seul Dieu. Non, ils auraient pu très bien le faire, mais ils ont resté dans leur incrédulité. Et donc Jéricho est situé aussi sur le terrain qui appartient à Dieu, c'est-à-dire cette terre promise qu'il va donner à son peuple ensuite, et donc forcément il fallait enlever cette ville de là. Si on doit trouver des leçons pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi des Jéricho. On a des obstacles dans notre vie, plus ou moins grands selon les saisons, on pourrait dire. Et des fois, on essaie d'entrer en possession de certaines choses. Je pense à notre vie de sanctification. C'est facile de vivre la sainteté de Dieu au quotidien. Ce n'est pas toujours simple. Hein. Est-ce que tout le monde est parfait aujourd'hui? Mais bon, rassurez. Hein. Donc, il y a ces Jéricho dans notre vie. Et beaucoup de choses, des fois, nous freinent, notre chair en particulier, parce qu'on l'aime, il faut être honnête. Mais Dieu veut nous faire avancer. Et des fois, il y aura des luttes comme cela, comme Jéricho. Et on peut réclamer, de la même manière que Josué va le faire à Dieu, des victoires. Et Dieu va nous offrir aussi des victoires au fur et à mesure. Mais pour ça, il faut lutter. Jéricho n'a pas été gagné par Josué en faisant rien. Il a dû faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et pareillement, pour moi, si je veux changer dans ma vie, progresser dans ma foi, eh bien, il faut que je fasse ce que Dieu me demande de faire aussi. La question, est-ce que je sais ce que Dieu me demande de faire? Ça, c'est la grande question. Donc Jéricho nous rappelle un peu nos défis dans notre vie et comment est-ce que nous les abordons, comment nous nous laissons transformer par le Seigneur, comment nous abordons une épreuve, une difficulté dans la vie. Et là, j'ai beaucoup de leçons, je pense, à tirer. Alors, dans un deuxième temps, on peut s'intéresser à cette bataille de Jéricho. Et si vous lisez le chapitre 5 de Josué, vous verrez qui était le chef de Josué. Josué était le chef du peuple, mais lui-même avait un chef. Et Josué 5 parle de le chef de l'Éternel, de l'armée. Alors, qui est-il? C'est l'ange de l'Éternel. Et on pense qu'il s'agit là de Jésus, hein, en avance, on pourrait dire, parce que cet ange a accepté l'adoration de Josué. Si vous lisez dans la Bible, il y a beaucoup d'anges des fois où, par exemple, Daniel va s'agenouiller devant l'ange et l'ange dit « Oh, tu ne m'adores pas, tu n'as pas à m'adorer ». Mais cet ange-là, qui était devant Josué, va accepter l'adoration de Josué. Et l'ange de l'Éternel, pour nous, c'est Jésus-Christ, hein, qui est préincarné, on pourrait dire, et qui était là devant Jésus. Et Josué avait donc comme chef lui-même Jésus-Christ. Et il va démontrer sa divinité, hein, en tant que Seigneur, en tant que chef, et Josué va prendre cette place de serviteur. C'est intéressant quand même de se dire que lui qui était le chef de tout le peuple accepte à un moment aussi de prendre la place de serviteur devant Jésus-Christ. Souvent avec le chef de tout, on veut tout diriger, mais en fait Josué qui pouvait le faire va accepter de se mettre sous l'autorité l'ange de l'Éternel et va accepter de suivre ce qu'il va lui dire. Au chapitre 6 verset 2, il dit l'Éternel dit je livre. Il livre cette ville de Jéricho à Josué. On parle là d'un verbe au présent prophétique, on pourrait dire, en fait, c'est « j'ai livré », c'est pas « je vais livrer peut-être », on va voir, c'est déjà fait, en fait. Quand il dit à Josué « je te livre cette ville », c'est comme si c'était déjà accompli. Et d'abord parce que Dieu sait tout, il savait très bien qu'il aurait la victoire à la fin, mais aussi parce que Dieu peut absolument tout. Et donc, Josué est parti avec l'assurance de la victoire, en fait, mais à condition qu'il obéissait, qu'il agissait comme Dieu allait lui demander. Si Dieu vous disait que « Oh, la prochaine épreuve, mais t'inquiète pas, ça va passer tranquillement », qu'est-ce que vous diriez? On serait peut-être pas content, hein? Pardon?
C'est pas Dieu qui peut dire ça.
Dieu sait ce qui va arriver, mais comment nous, on réagit? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces, donc on a déjà la victoire, normalement, quelque part. Mais on l'aborde souvent sous l'angle de la tristesse, de la lutte, etc. Et on n'obéit pas à Dieu à ce moment-là. Mais là, Josué, devant cette ville, alors il faut quand même se mettre un peu dans la peau de ce Josué, hein, Dieu lui dit, je livre cette ville, et Josué va obéir tout simplement à ce que Dieu lui demande. Alors le plan de Dieu, si on s'y intéresse un peu, je ne sais pas s'il y en a qui étaient dans l'armée, mais bizarre quand même, hein, la stratégie pour attaquer une ville. Généralement, on vient avec des chars, avec je sais pas, toute l'armée, là, et puis on bombarde, et puis on détruit cette ville. Mais le plan de Dieu et sa stratégie pardon, étaient vraiment bizarres. Alors moi, si j'étais Josué, j'aurais quand même eu un moment de flottement en me disant « Mais comment on va gagner cette bataille ?» Pas d'armes. Pour une armée, c'est bizarre. Pour une bataille, il n'y a pas d'armes. Pas d'échelle, pas de bélier, rien de ce qu'une armée normalement utilise pour attaquer une ville. Mais Dieu, lui, savait comment il fallait faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant les 7 jours où ils vont marcher tout autour, Jéricho ne jettera pas une flèche, ou de l'huile, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on jetait à l'époque, n'attaquera pas Israël non plus. Ils n'ont pas bougé. Ça, on l'oublie souvent, parce que normalement, ils auraient pu lutter, ils auraient pu sortir, attaquer. Ils n'ont rien fait. C'est peut-être parce que des fois, nous, quand on doit attaquer, on va dire, nos Jéricho à nous, on a notre raisonnement humain. Hein, on a notre logique. Je sais comment faire, moi. Je sais comment traverser l'épreuve. Je sais comment changer dans ma vie. Mais ça s'appelle le raisonnement humain. Et Dieu, des fois, fait complètement différemment les choses que nous. On aimerait que quelqu'un se convertisse. Mais ça fait 20 ans que je prie pour lui et je dis, bon, c'est pas logique, hein. Moi j'ai prié, donc logiquement il devrait se convertir. Je vais voir cette épreuve sous cet angle-là, ça me paraît logique. Et à la fin, Dieu ne fait pas du tout cela. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous arrivera un jour en tout cas. Dieu est curieux des fois, mais peut-être qu'il veut aussi nous humilier et nous rappeler que notre logique, notre raisonnement humain n'est pas son raisonnement. Et que des fois, il vaudrait mieux se soumettre à Dieu et à son raisonnement, à lui. Et donc, il va demander de marcher pendant 6 jours autour de la ville. Il faut aimer la marche. Hein. Alors, d'abord faire une première fois le tour de la ville. Puis, on retournait au camp. Alors, selon les calculs de certains, il y avait 4 ou 5 hectares. Il fallait environ une demi-heure pour faire le tour de la ville. C'est la petite marche, à ce qui paraît. Si vous êtes une demi-heure par jour, vous maigrissez. Bon. Ils ont dû maigrir à l'époque. La disposition était intéressante, il y avait l'arrière-garde, puis les 7 sacrificateurs avec les 7 trompettes, et puis l'arche, et puis il y avait aussi des hommes de guerre qui étaient là pour protéger en fait cette procession, on pourrait dire. Et puis ils vont faire comme ça, 6 fois le tour de la ville, tranquillement, sans être gênés. Il y a une espèce de routine, j'ai l'impression, qui s'installait. Hein. La première fois, peut-être vous avez peur quand même, vous dites « Oula, qu'est-ce qui va se passer ?» Ils vont peut-être nous jeter des flèches, ou ils vont tirer, je ne sais pas. Puis la deuxième fois, on prend un peu plus d'assurance, et puis la 6e fois, bon ben voilà, ça devient un peu banal. Mais peut-être que Dieu voulait, dans cette routine, développer quelque chose dans le cœur de ces gens qui étaient en train de tourner là autour, et du peuple en même temps. Hein, c'est de voir que Dieu les protégeait. Comme j'ai dit, ils auraient très bien pu jeter des choses. Il ne s'est rien passé, parce que Dieu est en train de les protéger. Et dans les raisonnements de Dieu, des fois qui ne sont pas notre logique, ben Dieu veut nous montrer aussi qu'il est présent, qu'il veut nous protéger malgré les difficultés. Et au-delà de la protection de Dieu, normalement, si je revenais au camp, ben, j'aurais dû avoir de la reconnaissance et dire merci Seigneur de nous avoir gardés pendant ce tour que nous avons fait. Parce qu'une demi-heure, c'est quand même long quand vous savez qu'il y a des gens terribles dans la ville et qui pourraient faire n'importe quoi. Vous auriez été prêt à faire ça, vous? Bon, on va dire oui parce qu'on connaît la fin, mais si on ne connaissait pas la fin, moi j'aurais pas, je sais pas si je l'aurais fait, hein, forcément. Une petite routine qui s'installe et peut-être c'est aussi pour nous rappeler que nous avons des fois une foi en tant que chrétien, mais une foi qui raisonne, qui imagine. Moi, j'ai la foi, je crois en Dieu, mais face à des situations, ben, je vais commencer à avoir des raisonnements d'homme, forcément. Je dis que c'est la foi, des fois, mais ce n'est pas la foi. C'est mon imagination, mais Dieu est là, Dieu est avec moi, et il va malgré tout me protéger, même si des fois mes raisonnements sont complètement différents. La foi s'apprend, je pense. Quelqu'un a fini d'apprendre dans la foi ? Vu le silence, c'est bien, je ne suis pas le seul. Et la foi doit grandir aussi, normalement. Et forcément, c'est en passant par ce genre d'épreuve ou de passage de vie, on va dire, que cette foi va grandir dans notre vie. Et Dieu va démontrer qu'il était vraiment avec eux. Peut-être qu'ils avaient besoin de cette preuve que Dieu était là et les protégeait réellement. Puis le 7e jour, cette fois, ils vont faire 7 fois le tour de la ville. 3h30 de marche. Là, déjà, le jogging, il est un peu plus sévère. 7 fois le tour de la ville et toujours, toujours en sécurité. Là, à un moment, peut-être, Jéricho aurait pu dire, bon, là, il commence à nous saouler. Hein. Il tourne. On va sortir avec l'armée et on va aller chasser. Il ne bouge pas. Toujours en sécurité, et le peuple d'Israël. Quand même curieux, quand on y réfléchit, non? Parce que généralement, dans d'autres situations, on voit que l'armée sort, attaque, et c'est fait. Peut-être qu'ils étaient vraiment terrorisés dans leur ville. Hein. Donc, 7 fois le tour de la ville, le 7e jour. Et puis, au bout du 7e tour, vous savez bien, ces sacrificateurs vont sonner des trompettes, et puis le peuple va crier fort. Alors, j'imagine que, je ne sais pas combien ils étaient à ce moment-là, mais il y avait beaucoup de monde, et ça doit faire du bruit. Une belle chorale, ça, à mon avis. Hein. Mais ça devait être assez intense. Alors, le chiffre 7, hein, quand on s'y intéresse un peu dans la Bible, c'est souvent un symbole de perfection. Il y a 7 sacrificateurs, il y a 7 trompettes, il y a 7 jours de bataille, il y a le 7e tour, etc. Le 7 a une valeur, hein, certainement, de perfection. Et puis les trompettes, quand on s'y intéresse aussi, retentissantes, comme il le dit plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle les trompettes du jubilé, on voit ça dans Nombre 10-10. En fait, quand elles sonnaient, elles déclaraient que l'Éternel était présent. Donc en tournant comme ça autour de cette ville plusieurs fois, et en sonnant des trompettes, il disait tout simplement « Dieu est présent ». Et méfiez-vous, on pourrait dire quelque part, à Jéricho. Hein. Elle démontrait que c'était aussi Dieu qui était en train de combattre, et pas le peuple. Parce que là, le peuple n'a rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. Qu'est-ce que ça serait bien si Dieu pouvait des fois régler tous nos problèmes comme ça, hein, qu'on n'ait rien à faire. Des fois, il veut le faire, hein, mais c'est nous qui voulons quand même nous mêler du problème. Mais des fois, Dieu fait absolument tout sans qu'on ait rien à faire. C'est formidable quand même d'avoir un Dieu comme ça, non? Non?
Oui.
Ah oui, quand même, j'espère. Dieu était présent, Dieu combattait à Jéricho. C'était son combat à lui vis-à-vis de cette ville qu'il allait juger. Finalement, la muraille va s'écrouler. Hein. Après 6 jours, les habitants auraient pu changer, auraient pu sortir avec un drapeau blanc en disant, un peu comme Rahab, nous croyons que Dieu est le vrai Dieu et que bah, il terrorise tout le monde, donc il va certainement agir mal à notre égard. Et ils auraient très bien pu sortir, demander pardon, mais ils ne l'ont pas fait. Et le 7e jour, donc, après ces 7 tours et ces trompettes, ces cris, la muraille de Jéricho va s'écrouler. Dans l'hébreu, littéralement, elle tombe sur elle-même. Hein. Elle s'effondre, en fait, hein, sur elle-même. Et il est dit, elle s'effondre sur les habitants, sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, sur les animaux. C'est terrible quand on y réfléchit, quand même. C'est notre Dieu qu'on aime qui fait ça. Souvent, on le voit dans les guerres, etc. On dit, ah, c'est terrible, mais Dieu a permis cette chose-là à ce moment-là. Il a jugé cette vie à cause de son péché. Et plus tard, Dieu jugera aussi les hommes et les femmes et les enfants, nous dit Apocalypse, de la même manière. Dieu ne rigole pas quand il va juger quelqu'un. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses pour savoir comment cette ville s'est effondrée. Alors, il y en a qui pensent qu'il y a eu un séisme. Pourquoi pas, que les fondations aient été sapées par Israël à force de tourner autour, et certainement avec les vibrations, les cris, hein, c'est pas de high-tech, c'est pas les murs d'aujourd'hui qu'ils avaient à l'époque. C'est pas le plus important. Si vous avez d'autres théories, venez me voir tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que Dieu a eu sa victoire à Jéricho, et Israël derrière a eu la victoire à Jéricho. Et cette victoire-là, elle n'est pas basée sur l'effort personnel, sur un travail personnel de l'armée ou de Israël. Elle n'était basée que sur le fait que Israël a cru Dieu. Alors ça paraît si banal, mais si on était à leur place, je ne sais pas si on aurait cru forcément Dieu. Ah, vous allez faire 6 fois le tour, puis à la 7e fois vous criez, vous verrez, Jéricho est prise. Vous auriez cru ça, honnêtement? Moi pas. Pas moi en tout cas. Alors, on est aussi avec un Israël là, hein, on connaît un peu l'histoire d'Israël avant. La foi, ce n'était pas leur grand fort, on pourrait dire. Hein, mais pourtant là, cette fois, Jésus a cru en Dieu, a accepté d'obéir à Dieu. C'est ça qu'on oublie aussi. Il a accepté d'obéir au plan que Dieu avait préparé pour cette ville de Jéricho. Il y a des leçons à tirer pour nous, hein, devant nos Jéricho à nous. Est-ce que d'abord nous faisons de Christ vraiment notre chef? Oui, je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais bon, je me débrouille tout seul. Est-ce que j'arrive à m'arrêter d'effort, à dire « Christ, tu es mon chef, tu es celui que je veux vraiment suivre » et dans cet effort de faire Christ comme réellement mon chef, est-ce que je vais chercher sa volonté? Parce que dans nos Jéricho, dans nos épreuves, on a notre raisonnement humain, on a nos réactions humaines, et on va réagir tout de suite, mais sans poser forcément la question à Dieu. Alors des fois, on lui pose, mais à demi. Hein. On est comme ça souvent. Je sais que Dieu existe, mais bon, je pose à demi la question à Dieu. Mais Josué s'est arrêté à écouter son chef. Il a écouté son plan. Et il a exécuté aussi son plan. On l'a dit, les plans de Dieu sont parfois différents de nos raisonnements humains. Combien de fois dans ma vie, j'ai vu Dieu agir complètement différemment de ce que moi je voulais. Et je pense pour vous aussi. Hein. Mais on apprend comme cela, tout simplement, à faire confiance en Dieu. Il s'agit là de vivre vraiment par la foi. On dit vivre par la foi, mais une fois que Dieu nous retire tout, peut-être, ou face à des situations comme cela, c'est là où on se jette, on pourrait dire, dans le vide. C'est là où on découvre vraiment ce qu'est la foi. Hein, la foi, c'est se jeter dans le vide. C'est croire que Dieu va nous récupérer en bas. C'est ça, vraiment, la foi. La foi, c'est suivre l'agneau là où il a décidé de nous emmener aussi. Alors, des fois, il nous emmène dans des verts pâturages, mais pas toujours. Des fois, il nous emmène dans la vallée de l'ombre de la mort. Pas forcément pour mourir, mais pour passer des moments difficiles. Des difficultés qui vont finalement nous transformer et créer en nous cette confiance en Dieu, comme l'avait Jésus à ce moment-là. C'est ça, vivre par la foi. La foi est obéissante, enfin, la foi obéissante, pardon, hein, pas que la foi seulement, mais la foi obéissante, qui obéit à ce qu'elle croit, ben, ça assure des victoires. Là, j'ai l'histoire d'un funambule qui est assez intéressante par rapport à la foi. Et au 19e siècle, le plus grand funambule du monde était un homme du nom de Charles Blondin. Je ne sais pas si vous connaissez. Le 30 juin 1859, il fut le premier homme de l'histoire à traverser les chutes du Niagara sur une corde raide. Environ 25 000 personnes se rassemblèrent pour le voir faire 330 mètres suspendus sur une simple corde à 50 mètres au-dessus des eaux furieuses. Il travailla sans filet, sans harnais de sécurité. Le moindre faux pas lui serait fatal. Quand elle atteignit la rive canadienne, la foule a éclaté en ovations puissantes. Durant les jours qui suivirent, il fit plusieurs fois la traversée des chutes. Une fois, il a traversé sur des échasses. Une autre fois, il a pris une chaise et une poêle. Il s'est assis au milieu de la traversée, a fait cuire une omelette et l'a mangée. Une autre fois, il a emporté son manager sur le dos. Et un jour, il a traversé en poussant devant lui une brouette pleine de 150 kilos de ciment. Il est fort quand même, hein, on y réfléchit. À cette occasion, il a demandé aux spectateurs qui l'acclamaient s'il pensait qu'il pourrait porter un homme au-dessus dans la brouette, assis, pardon, dans la brouette. Une puissante acclamation monta de la foule, en portant ses regards sur un homme qui criait très fort, qui disait « Oui, hein, tu peux ». Il demanda « Monsieur, pensez-vous que je peux vous faire traverser en sécurité dans la brouette ?»« Oui, bien sûr !» répondit l'homme. « Alors montez !» dit Blondin avec le sourire. L'homme refusa. C'est ça la foi, en fait. On croit des fois qu'on a la foi, on est sûr d'avoir cette foi, et finalement, elle n'est pas obéissante. C'est ça la différence. Le Seigneur nous dit, on doit avoir cette foi, on doit croire en lui, mais aussi obéir, faire ce qu'il me demande dans les situations données de notre vie. C'est ça, une vraie foi. Toute bataille, toute épreuve doit être conduite par le grand stratège. C'est Dieu, hein, le grand stratège. Et si je le reconnais comme un grand stratège dans ma vie, alors je veux aussi lui obéir, puisque lui, il sait tout par avance, il peut tout par avance. Franchement, il n'y a pas meilleur général, non ? Enfin, pour ceux qui étaient dans l'armée, là. Hein, parce que moi, je suivais mes généraux, enfin... C'était pas terrible, terrible. Mais celui-là, le grand stratège, lui, je veux bien le suivre. Parce qu'il a non seulement démontré plus d'une fois qu'il est victorieux. Il le montre à Jéricho, mais il l'a démontré plus d'une fois dans la Bible. Et quand on s'intéresse à cette victoire sur Jéricho, hein, la clé de la réussite, on l'a dit, c'est l'obéissance de la foi. La victoire par l'obéissance. C'est pas que Josué qui a obéi, c'est tout le peuple qui a obéi à Dieu, malgré le drôle de plan que Dieu avait élaboré à ce moment-là. Tout le monde ensemble avec confiance. Moi, j'imagine, si on fait des projets dans l'Église, peut-être, est-ce qu'on aura tous la même foi ? Est-ce qu'on va tous prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut pour cette Église ? Ou peut-être pour un projet de vie, je ne sais pas. Est-ce qu'on a vraiment confiance en Dieu ? Oui, aujourd'hui, j'ai mes deux salaires, j'ai ma petite maison, tout va bien, j'ai confiance en Dieu. Et Dieu retire tout ça. Ouais, j'ai confiance en Dieu encore ? C'est la vraie question, hein. Il faut être dans la situation pour savoir si j'ai vraiment confiance en Dieu. Jéricho était là une étape, on va dire, pour la vie de ce peuple d'Israël qui va être éprouvé dans sa foi. Mais cette fois, ils ont obéi sans discuter. Vous vous souvenez d'Israël dans le désert ? Chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait ? Ça râlait, ça murmurait, ça ne voulait pas suivre, ça voulait retourner en Égypte. C'était mieux, mais on était esclaves là-bas. Il y a eu un changement quand même, je trouve, dans la foi, on pourrait dire, d'Israël. Ils ont obéi sans discuter. Personne n'a murmuré, personne n'a râlé. Et des fois, ça va plus vite, en fait. Dans notre vie, ces Jéricho, on va les aborder, et ça va durer trop longtemps, des fois, tout simplement parce que nous murmurons, parce que nous râlons, parce que nous ne voulons pas écouter ce que Dieu veut pour nous. Et ça va prendre du temps. Là, en 7 jours, c'est fait régler. Ils auraient peut-être passé des mois à lutter contre Jéricho, s'ils l'avaient fait avec leur raisonnement humain. Mais là, en quelque temps, c'était fait. Et peut-être dans notre vie, les épreuves seraient plus courtes si on les acceptait, si on avait confiance en Dieu et si on lui obéissait sans discuter. Alors, c'est facile à dire, Emmanuel. Hein. On est bien d'accord, facile à dire. Mais je pense qu'avec le temps, j'ai appris aussi à voir cela comme étant une vérité. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous pourrons l'apprendre. Une victoire par la foi, hein, c'est par la foi que les murailles de Jéricho vont tomber. Ils ont cru en Dieu, et parce qu'ils ont cru en Dieu, ils ont eu une victoire. Et quand on croit en Dieu, il y a toujours une victoire derrière. Et Rahab et toute sa famille, il y en avait d'autres qui étaient là, eux ont cru en ce Dieu qui était capable de tout, et ils ont été sauvés. Hein, ils ont été pris avec Israël plus tard. Rahab sera en sécurité, puis si vous connaissez un peu la généalogie, elle sera même dans la lignée de David, puis de Jésus-Christ. C'est dire quand même, c'était une prostituée, hein, n'oublions pas. C'était une prostituée qui a cru. On regarde des fois ces gens-là en disant, eux, ils ne pourront jamais être sauvés. Ben, regardez la preuve. Leçon pour nous aujourd'hui, ben, Jéricho, Rahab a saisi la grâce qui était offerte par la foi. Cette grâce, elle existait déjà là. Elle a eu la vie, et certainement qu'elle a cru en Dieu ensuite. Mais elle a cru que Dieu allait détruire cette ville, et elle a saisi la grâce avant d'être mise à mort. C'est ça qui est important. Il y a là vraiment une métaphore, on pourrait dire, du salut. Aujourd'hui, la Bible déclare que tous les hommes sont perdus à cause de leur péché. Romains 3, 23. Tous sont privés de la gloire de Dieu parce qu'on a péché. Dès que je nais, je suis privé de la gloire de Dieu. Et si je ne me repens pas, si je n'accepte pas dans ma vie comme Seigneur, eh ben j'irai loin de lui pour l'éternité, ce qu'on appelle l'enfer. Et je ne sais pas demain de quoi il est fait. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut réfléchir à où est-ce que j'en suis vraiment avec Dieu et décider de me reconnaître comme étant un peu comme cette Rahab, hein, destinée à être perdue, mais qui finalement va croire en Dieu et va l'accepter dans cette vie. Mais face au jugement, Dieu offre cette grâce aussi. Il a laissé sept jours de grâce, on pourrait dire, à ce peuple de Jéricho. Il y avait quand même de quoi réfléchir, non? Il y avait de quoi poser des questions. Mais ils n'ont pas accepté. Et on croit des fois qu'on peut vivre notre vie en disant « je refuse Dieu dans ma vie » et puis d'un coup j'ai un accident, d'un coup c'est trop tard. Et pour Jéricho, peut-être ils se sont dit « un huitième jour ». Mais c'était trop tard pour eux. Et ils ont été perdus et ils sont tous morts. La grâce sauve de la destruction, comme pour Rahab, mais elle sauve aussi de l'enfer aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, et assure la glorification hein, avec le Seigneur. Dans cette destruction de Jéricho, le Seigneur a demandé qu'elle soit dévouée par interdit à l'Éternel. C'est ce qu'il faisait souvent à l'époque. Hein. Il fallait détruire les habitants, le bétail et tout, en fait, et devait être détruit, sauf, il avait dit, l'or et l'argent qui étaient destinés pour le trésor de l'Éternel. Si vous connaissez la bataille de Haï, juste après, il y a quelqu'un qui va garder quelque chose et finalement, ils vont perdre à cause de ça. Ils n'avaient pas obéi pleinement. Mais Dieu, là, en détruisant Jéricho, a infligé son jugement, son juste jugement pour ces pécheurs qui avaient un temps de grâce et qui n'ont pas accepté. Et ce n'est pas moi qui vais dire à Dieu, « Oh, mais pourquoi tu as permis cela ?» Ou peut-être plus tard, quand ben, il y aura ce grand trône blanc qui sera établi et que tous ceux qui ont refusé Dieu qui seront jetés en enfer, moi, je n'ai rien à dire. Dieu est juste, il est souverain et c'est lui qui décide. Et en même temps, si on s'intéresse un peu globalement à la conquête de cette terre promise, Dieu enlevait ces villes, hein, parce que si elles étaient restées et que si Israël s'était installé là, eh bien, il y aurait eu des tentations à droite et à gauche. Et le péché de ces villes serait certainement venu contaminer Israël. Alors, le problème, c'est qu'Israël n'aura pas conquis toute la terre promise. Et là, forcément, il y aura eu des tentations, hein, si vous connaissez un peu la suite de cette conquête de la terre promise. Et puis, Dieu lance une malédiction sur Jéricho aussi. C'est dire combien il n'aimait pas cette ville, quand même. C'est dire. Il avertit Josué, hein, par Josué, que quiconque va reconstruire la ville de Jéricho, il sera maudit. Et le prix, il est dit, pour le fondement, hein, il y aura des morts du fils aîné, et pour les portes, morts du fils cadet. Si vous lisez un peu la Bible, 500 ans plus tard, Yel de Bethel va rebâtir cette Jéricho. Par contre, son fils Abiram va mourir, et son autre fils, Sagub, vont mourir au prix, justement, de construire cette ville. Dieu avait maudit cette ville, cet homme n'a de nouveau pas cru ce que Dieu avait dit, et il a perdu ses deux enfants. Je ne sais pas s'il s'en fichait, mais en tout cas, il avait été averti. Et évidemment, quand Dieu nous avertit, il nous dit de ne pas faire certaines choses et que nous le faisons quand même, après on va pleurer parce qu'il nous arrive des difficultés. C'est comme si on dit que Dieu nous dit de ne pas voler, et qu'on va voler, et qu'on se retrouve en prison, après on va râler après Dieu, mais pourquoi je suis en prison ? On est comme ça. Alors là, j'exagère peut-être l'exemple, mais dans beaucoup de domaines de notre vie, on est comme cela. Dieu fait ce qu'il dit, mais par contre, il avertit toujours, toujours avant. Hein, Dieu n'a jamais pris quelqu'un au dépourvu. Il l'a averti avant, comme Jéricho a été averti pendant 7 jours. Mais si je veux défier Dieu, alors là, ça peut me coûter très cher. On ne se moque pas de Dieu. On ne défie pas Dieu. C'est lui qui aura le dernier mot, que je le veuille ou non. Donc la victoire de Jéricho est le fruit, on l'a dit, de la foi qui obéit à un Dieu, mais qui obéit pas bêtement à un Dieu, mais à un Dieu qui peut absolument tout. Si je veux obéir à un Dieu comme cela, c'est parce qu'il est capable de faire les choses, on est bien d'accord. Souvent on n'obéit pas à Dieu parce qu'on se dit qu'il n'est peut-être pas capable, parce qu'on doute des fois de ce que Dieu peut faire dans notre vie. Et on est tous comme ça, hein, croyez-moi. Mais Jéricho me montre là que quand je place ma foi et que j'obéis vraiment à Dieu et que je connais mon Dieu, c'est peut-être là le bas qui blesse souvent, que je sais qui est réellement Dieu et ce qu'il peut pour moi, alors au bout, ben, je peux avoir la victoire. Alors toutes les victoires ne se sont pas passées de cette manière-là, mais c'est quand même intéressant, je trouve, et c'est quelque chose d'utile dans ma vie au quotidien. Pour conclure, au verset 27, il est dit « L'Éternel était avec Josué ». L'Éternel était avec ce peuple et travaillait avec ce peuple. Il avait là la preuve, maintenant, que Dieu travaillait réellement, puisque Jéricho a été détruit. Et Dieu permet dans notre vie aussi des expériences, des fois, pour que quand une autre épreuve arrive, ou une autre difficulté arrive, on puisse retourner en arrière et se dire, « Hé, la dernière fois, il m'a aidé. » Non ? Il m'a aidé la dernière fois. C'était une terrible épreuve, mais il était là, il était présent. Et il y aura comme ça, au fur et à mesure de ma vie, plusieurs preuves, on pourrait dire, que Dieu est réellement là et que je peux lui faire confiance. Et c'est fort du passé, bien souvent, que je peux aller vers l'avant, et en particulier dans ces nouvelles épreuves. Pour Josué, sa réputation, j'imagine bien, va se répandre dans tout le pays. Vous imaginez ? Alors le pays devait être vraiment en peur, en terreur, à mon avis, parce que non seulement ils avaient entendu ce qu'ils avaient déjà fait, mais alors là, ils venaient de battre une ville sans rien faire. Ça calme quand même, quelque part. Hein, ça calme. Et là, ils devaient voir la réalité de leur Dieu, la capacité de leur Dieu. Et des fois, on voit Dieu dans sa capacité et on dit, je te défie. C'est grave quand même. Hein, on était comme ça quand on n'était pas croyant. Des fois, on croyait en Dieu, mais on ne voulait pas lui obéir et on le défiait d'une certaine manière. Jéricho, c'est la victoire de la foi avec des moyens et des principes qui semblent complètement insensés, complètement illogiques du point de vue humain. Personne n'aurait attaqué la ville de Jéricho de cette manière-là. Et c'est bien des fois que Dieu agisse comme cela pour qu'il nous rappelle qu'on doit plutôt rester humble, disponible, soumis à Dieu, plutôt que vouloir foncer avec notre logique et avec nos raisonnements, parce qu'on est comme ça, naturellement. Des fois, il faut savoir s'arrêter pour écouter Dieu et accepter que Dieu ne fait pas forcément les choses comme nous, on voudrait les faire. Et c'est bien, parce qu'au bout, si je les fais comme moi, je voudrais, je veux dire, c'est moi qui ai eu la victoire. C'est grâce à moi. C'est notre orgueil qui serait là mis en avant. Alors que Dieu veut simplement être mis à l'honneur, et forcément quand il n'agit pas comme nous, mais qu'il a la victoire au bout, on ne peut que s'humilier devant lui et accepter que c'est lui qui a reçu la victoire, et tous les honneurs, évidemment, sont pour lui. En 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 4, il est dit que notre combat à nous, il n'est pas charnel, il est spirituel. On doit lutter avec le Seigneur dans notre vie. Hein, souvent on attaque avec notre capacité, avec nos forces, on va y aller, hein, on va combattre. Mais en fait, Dieu ne veut pas qu'on combatte de cette manière-là. Il veut qu'on combatte avec lui, dans notre fidélité avec lui, de le suivre, de marcher avec lui. Et vous savez, on est un peu bête des fois, parce qu'on se prive de quelque chose, de sa puissance, tout simplement, non ? Est-ce qu'on est puissant, nous ? Une certaine mesure, on va dire. Mais il y a des choses qui nous échappent complètement. On ne peut pas faire plus que nos forces. Mais Dieu dit... Si tu m'écoutes, si tu traverses des difficultés ou si tu luttes avec moi, tu disposes là d'une puissance que tu ne connaîtras nulle part. Et on se prive de ça bien souvent dans notre vie. C'est pas formidable, en fait, de savoir que Dieu peut absolument tout pour nous aider. C'est génial, non ? Avant, on essayait de lutter nous-mêmes, on faisait du bricolage, on pourrait dire. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, si je laisse un peu prise et que je laisse faire Dieu dans ma vie... Mais tout devient possible, en fait. Alors, ça ne sera pas toujours des victoires, forcément. Ce sera des changements aussi dans ma vie. Mais avec Dieu, je peux absolument tout. Et ça, c'est du bien, non ? Demain, je vais partir au boulot. Heureux ? On voit vos têtes, là. Vous n'avez pas l'air heureux. Mais Dieu peut absolument tout. Et si vous avez un problème au boulot, c'est votre Jéricho. Ben Dieu va vous aider. Si vous n'avez pas de boulot, c'est un autre Jéricho. Et Dieu est assez puissant pour vous donner du travail, etc., etc., etc. Mais si je l'oublie et que je vais marcher comme un zombie vers mon travail et que j'oublie tout ça, ben, finalement, je me prive d'une joie et de la puissance de Dieu et aussi de la victoire, finalement, derrière. Et c'est bien dommage. Alors, est-ce qu'on est prêt à attaquer nos propres Jéricho? Je le souhaite, en tout cas. On va prier. Seigneur, merci pour ce beau passage, même curieux peut-être pour nous, de cette bataille de Jéricho qui nous montre cette victoire par la foi. Et Seigneur, combien de fois tu voudrais que nous nous arrêtions dans notre vie pour t'écouter, pour faire de toi réellement notre chef dans notre vie et écouter tes conseils, écouter ton plan, qui n'est pas forcément le nôtre, qui est même parfois complètement illogique. Mais Seigneur, apprends-nous à nous arrêter pour marcher finalement avec toi ensuite, mais sur la bonne voie. Tu vois, notre foi est bien souvent faible, elle est un peu charnelle, je dirais, mais apprends-nous à grandir dans ce domaine-là et je dirais presque, donne-nous de nouvelles Jéricho pour que nous puissions combattre avec toi et te laisser là toute la victoire. Tu connais les Jéricho de chacun aujourd'hui, les difficultés, je te demande de nous aider, de nous donner aussi la patience, comme ces 7 jours de patience qu'avait le peuple avant d'obtenir la victoire. Des fois, c'est plus long, Seigneur, mais au bout, c'est toi qui as la victoire. Tu as démontré à Josué que tu étais présent, que tu étais aussi celui qui est vainqueur sur toute situation. Alors, mets ça dans notre cœur et que nous puissions partir plein de joie après ce culte et traverser notre semaine avec ta puissance. En Jésus-Christ. Amen.